Chapitre 5. Sur la route, l'abbé Muizen cheminait allègrement le lendemain. Il était chargé d'une mission qui lui agréait fort, et ce contentement se lisait sur son visage brun et sec, aux traits fortement saillants. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit en perspective un mariage réunissant les meilleures garanties de bonheur. Deux chers enfants qu'il connaissait bien et qui semblaient faits l'un pour l'autre. Oui, en vérité, l'ambassade était fort agréable. Il longeait maintenant le mur du jardin des Cibreux. Le vent très vif agitait les branches dépouillées des arbres qui s'allongeaient par-dessus la crête couverte de lierre. Le recteur passa près des trois chênes, arbres séculaires qui avaient donné leur nom à la propriété, et franchit le seuil de la grille toujours ouverte. Madame Cibreux, qui inspectait ses rosiers devant la maison, l'aperçut et vint à lui. « Bonjour, monsieur le recteur. C'est une aimable pensée de venir nous faire une visite. »« Je ne vous dérange pas trop, madame. Il s'agit d'une question importante. »« Vous ne me dérangez pas du tout. Entrez donc. » Il la suivit dans le salon élégant et clair où se groupaient de jolis sièges inconfortables. Madame Cibreux en désigna un au prêtre et s'assit en face de lui. Elle demanda des nouvelles de Madame Muizen, parla de la santé de son mari qui laissait à désirer. Après quoi, le recteur vint au but de sa visite. « Je viens vous adresser, madame, une demande en mariage. Monsieur de Pindegui, mon ancien et cher élève, aime profondément votre charmante nièce, Mademoiselle Luz. Je suis chargé par lui de vous informer de ses sentiments afin que vous en fassiez part à Monsieur Talmay et lui transmettiez la demande de la main de sa fille pour le marquis de Pindegui. » Le froid visage de son interlocutrice s'était contracté. Madame Cibreux dit sèchement « Ah, Monsieur de Pindegui songe à Luz, je m'en étonne de la part d'un jeune homme si sérieux. Elle est bien enfant. » Enfant, elle, mais aucunement. Sa nature est gaie, très vive, très spontanée. Mais elle est aussi, tout autant que O.L., sérieuse et profondément chrétienne. Les lèvres pincées, Madame Cibreux riposta. « Je ne suis pas de votre avis, mais enfin, cela regarde Monsieur de Pindegui. J'écrirai donc au docteur Talmay pour l'informer de cette demande, Monsieur le recteur. » « Le plus tôt possible, n'est-ce pas, madame ? O.L. est si impatient de pouvoir nommer Mademoiselle de Luz sa fiancée. » Madame Cibreux dit avec un accent dont elle ne put dissimuler complètement l'aigreur. « Il aurait pu trouver cependant un parti bien autrement brillant dans sa situation. Luz n'a qu'une petite dot et très peu d'espérance car son père est sans fortune personnelle et ne fait guère d'économie. » « Oh, Monsieur de Pindegui ne regarde pas à cela. Mademoiselle Luz lui plaît, il ne demande pas autre chose. »« Allons, tant mieux. Nous serons certainement très satisfaits de voir Monsieur de Pindegui entrer dans notre famille. » Madame Cibreux, se reprenant, après le premier moment de saisissement irrité, prononçait des phrases qu'elle voulait rendre aimables, mais sous lesquelles le prêtre discernait l'effort. Il connaissait d'ailleurs assez sa paroissienne pour se douter des sentiments qu'il agitait en ce moment. Aussi ne prolongea-t-il pas sa visite. En se levant, il demanda « Ferez-vous part, dès maintenant, à Mademoiselle Luz, du désir de Monsieur de Pindegui, madame ?»« Luz n'est pas ici pour le moment, monsieur le recteur. Elle a dû s'absenter un peu impromptu. Je crois d'ailleurs préférable de ne rien lui dire avant la réponse de son père. » « Cependant, M. Talmay souhaitera sans doute connaître les sentiments de sa fille. »« C'est probable. En ce cas, il lui écrira. Je réfléchirai à tout cela, monsieur le recteur. » Quand l'abbé Muizen rentra au presbytère, il dit à O.L. qu'il attendait et venait au-devant de lui des questions impatientes aux lèvres. « Eh bien, mon cher enfant, je crois que la tante va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. »« Comment cela ?» Mais parce que, je le soupçonne, on avait espéré que vous choisiriez Claire. J'ai bien vu aussitôt la déception, la colère mal dissimulée de Madame Cibreux. Elle a dit cependant qu'elle allait écrire à M. Talmay. D'autre part, Luz est absente des trois chênes, paraît-il. O.L., dont le front s'était plissé aux paroles du prêtre, s'écria « Comment, depuis hier ?»« Oui, elle est partie ce matin. » Madame Cibreux ne m'a pas dit pour quelle destination, mais j'ai lieu de penser qu'elle se trouve chez Mademoiselle Élise. Celle-ci, après avoir terminé l'éducation de Claire, s'est retirée à Vannes, où elle vide ses petites rentes. Luz m'avait dit qu'elle comptait aller passer près d'elle quelques jours. Cependant, je croyais qu'elle ne s'y rendrait qu'un peu plus tard. Hoël fit quelques pas à travers la pièce succinctement meublée qui servait de bureau au recteur, puis revint près de celui-ci. « Je me méfie de ces deux femmes. De quelle façon vont-elles présenter ma demande à M. Talmay ? Il faut que je voie Mlle Luz, que je sache par elle l'adresse de son père. Et alors, j'écrirai à celui-ci, je plaiderai moi-même ma cause. Mais que dira de cela Mme Cibreux ? Oh, ce qu'elle voudra ! Vous comprenez, monsieur le recteur, que je ne veuille pas laisser mon sort entre les mains d'une femme intéressée à nuire à sa nièce, dans l'espoir que je me rejetterai sur sa fille. L'ancienne institutrice habite Vannes, dites-vous. Savez-vous son adresse ? Oui, je vais vous la chercher. Vous aurez en mademoiselle Élise une excellente alliée, car elle chérit Luz. Et dès longtemps, elle avait prévu la jalousie de Claire à l'égard de sa cousine. » Hoël arriva à Vannes assez tard dans la soirée. Il ne pouvait se présenter à cette heure chez Mademoiselle Élise. Mais le lendemain matin, dès 10 heures, il sonnait à la petite maison grise et lézardée, sise dans une vieille rue au pavé inégal, sur lequel fondait une neige légère, tombée dans la nuit. La porte fut ouverte par l'ancienne institutrice, dont le visage ridé s'entourait d'une fanchon de laine noire. Hoël se nomma en s'excusant de la déranger à cette heure. Mais elle dit avec un bon sourire « Je suis très heureuse de recevoir dans ma petite maison celui qui honore tant notre Bretagne. Et puis, nous sommes d'anciennes connaissances. Entrez donc, monsieur !» Elle l'introduisit dans une salle à manger, étroite et longue, que chauffait un clair-feu de bois. Sur une étagère du vieux buffet d'acajou, des roses de Noël s'épanouissaient dans une faïence rustique. Au milieu de la table couverte d'un tapis de drap grenat, une jardinière de cuivre contenait de superbes touffes de houx. Mademoiselle Élise les désigna en disant avec un sourire « C'est Luz Talmay, mon ancienne élève, qui a décoré si joliment mon logis. Ah, elle est ici, mademoiselle, c'est à son sujet que je viens. » Et aussitôt, Hoël exposa le but de sa visite. Quand il eut fini, Mademoiselle Élise déclara « Vous faites bien de prendre vos précautions. Madame Cibreux ne voit au monde que ses enfants et je ne sais trop si, l'intérêt de l'un d'eux étant en jeu, elle s'arrêterait devant une petite déloyauté. Venez, vous allez parler à Luz. Elle est en ce moment dans le jardin à contempler les effets de soleil sur la neige. » D'un pas alerte, Mademoiselle Élise précéda le jeune homme dans le couloir et de là, dans le jardin, tout en longueur, garni de plates-bandes bordées de buis. Sur les arbres dépouillés, sur les branches d'un vieil épicéa, la neige légère demeurait encore, caressée par les rayons d'un pâle soleil qui la fondait lentement. Luz se promenait dans l'unique allée. Elle était vêtue de gris pâle et un capulet de laine blanche couvrait sa tête. Au bruit des pas sur le sol humide, elle se détourna. Aussitôt, une teinte rose monta à son joli visage à la vue d'Hoël. D'un ton ému et surpris, elle s'écria « Monsieur de Pindegui !» En quelques minutes, Hoël fut près d'elle. « Oui, mademoiselle, je suis venue parce que j'avais une très importante requête à vous adresser. De ce que vous me répondrez, le bonheur de ma vie dépendra. » Mademoiselle Élise ajouta d'un ton allègre « En deux mots, voici ce que désire M. de Pindegui. C'est que vous deveniez sa femme, ma petite Luz. » La teinte rose se fonça sur les joues de Luz, les beaux yeux s'éclairèrent d'une émotion plus vive. Avec un sourire tremblant, Luz murmura « Oh, vous voulez, monsieur ?»« Oui, je veux avoir pour compagne de toute ma vie celle qui fut, autrefois, si bonne pour le déshérité que j'étais alors. Je n'ai rien oublié, mademoiselle. » Vous étiez en ce temps-là une enfant charmante, très franche, ignorant les petites vanités communes à tant d'autres, déjà sensible et pitoyable à toutes les misères. En vous revoyant jeune fille, j'ai compris aussitôt que vous n'aviez pas changé, que je trouverais en vous toutes les qualités pour ma future épouse. Voilà pourquoi je vous demande de devenir ma femme, mademoiselle. » Il se penchait un peu avec des yeux pleins de prières. Une petite main très blanche se tendit vers lui. « Je dis oui, bien volontiers, mais il faut demander à mon père. Et puis, ah, cela va mettre ma tante tellement en colère. » Tout à coup lui revenait le souvenir de la scène qui avait motivé son départ. Elle ajouta, en s'adressant à Mademoiselle Élise, « C'est pour le coup que l'on va m'accuser de manœuvre, de je ne sais quoi. » Hoël dit vivement, « Comment ? Avez-vous eu déjà des ennuis à ce sujet ?» Mademoiselle Élise répliqua, « Mais je crois bien, c'est pour cela qu'elle est ici. Puis-je raconter tout à M. de Pendegui, Luce ? Il est presque votre fiancé, maintenant. » Hoël protesta, « Oh, tout à fait, j'ai son consentement. » Sa main serra longuement celle de la jeune fille et la retint pendant que Mademoiselle Élise rapportait les attaques injustes auxquelles Luz avait été en butte de la part de sa tante et de sa cousine. En entendant cela, Hoël parut irritée au dernier point. « Les misérables jalouses, mais elles en seront pour leur méchanceté. Vous me donnerez l'adresse de monsieur votre père, mademoiselle, et je lui écrirai dès ce matin pour lui adresser directement ma demande. » Il recevra en même temps une lettre de moi, ajouta Luz. Je veux lui dire tout ce que je pense de vous. Il est très bon, mon cher papa, et il a grande confiance en moi. Je suis bien certaine que la lettre de ma tante n'aura pas d'influence sur lui. Il faut l'espérer. Au cas contraire, l'abbé Muizen saurait remettre les choses au point. Je vais donc maintenant me retirer en emportant bien plus qu'un espoir. Mademoiselle Élise l'interrompit. « Pas du tout, vous resterez déjeuner avec nous, n'est-ce pas, Luz ?»« Oh, oui, oui !» Les yeux souriants et pleins d'une chaude lumière s'attachaient sur Hoël, qui considérait la jeune fille avec une tendresse émue. « Je ne demande pas mieux si je ne dois pas vous déranger trop. Vous savez, pas de cérémonie, votre ordinaire habituel, Mademoiselle Élise. » « Convenu. Nous oublierons que vous êtes un homme riche, célèbre, etc. » Pour ne vous souvenir que du petit Hoël qui ne mangeait pas toujours à sa faim. C'est cela. Je retourne à l'hôtel écrire ma lettre à M. Talmay et je reviens. Il se pencha, baisa les doigts de Luz, puis la longue main ridée de Mademoiselle Élise et s'éloigna d'un pas alerte, le cœur plein de joie. Quand il eut disparu, Luz se jeta dans les bras de la vieille demoiselle en murmurant avec des larmes de bonheur. « Oh, mademoiselle, je suis si heureuse! Je l'aime tant !» Luz avait bien prévu quant à la réponse de son père. Sans se laisser influencer par les phrases ambiguës dont Madame Cibreux avait rempli sa lettre, il accorda son consentement par retour du courrier en termes chaleureux. Il annonçait aussi son arrivée en France dans 3 semaines et demandait que l'on fixât la date du mariage de façon qu'elle coïncidât avec le séjour d'un mois qu'il comptait faire à Paris avec sa femme et ses enfants. Madame Cibreux, dissimulant sa colère, rappela sa nièce aux 3 chaînes. Il lui fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur à cause de ses relations. Mais quelle amertume pour elle que ses fiançailles! Avec quelle colère jalouse, difficilement contenue, Claire voyait le bonheur de Luz et d'Hoël, les attentions dont le jeune homme entourait sa fiancée, les gâteries dont il la comblait. À l'égard des dames Cibreux, Hoël conservait une attitude de courtoisie froide qui les froissait secrètement. Néanmoins, elle lui témoignait une amabilité empressée. Une telle alliance était un grand honneur pour la famille. À défaut du mari célèbre, très riche, jeune et charmant, possesseur d'un des plus vieux noms de Bretagne, dont avait rêvé Claire, on se parerait du cousin. Et déjà, Albert faisait la roue au milieu de ses camarades en parlant du marquis de Pendegui, fiancé de sa cousine. Hoël pressait la restauration de Kerlozo. Il voulait pouvoir, au retour de son voyage de noces, s'y installer aussitôt. En outre, il commençait à racheter des terres aux alentours et M. Cibreux venait de lui vendre l'étang de Penbaol avec les landes qui l'environnaient. Un après-midi, il se rendit à Kerlozo en compagnie de Luz et du docteur Talmay, arrivé de la veille. Il fit visiter le château à son futur beau-père et soumit à sa fiancée ses projets d'ameublement que Luz approuva pleinement car il était homme de goût et très fin connaisseur. Dans la tour où avait autrefois élu domicile le défunt M. de Pendegui, le docteur Talmay, amateur de vieux papiers, tomba en arrêt devant des paperasses jaunies et s'attarda à les examiner. Les fiancés sortirent dans la cour et allèrent s'asseoir sur la margelle du vieux puits. Luz demanda Vous le laisserez tel qu'il est, notre puits ? Oh, je crois bien, il me rappelle un trop charmant souvenir. C'est ici que je vous ai lu des vers, Luz, un de mes premiers essais. » Elle sourit en inclinant affirmativement la tête. « Je me souviens. Les avez-vous conservés ?»« Oui, je vous les montrerai. Moi aussi, j'ai gardé quelque chose. » Elle prit dans sa poche un petit portefeuille de cuir foncé, l'ouvrit et en sortit un papier de soie qu'elle déplia. « Voyez ces deux fèves. Elles m'ont été données par celui dont je fus la reine deux fois. » « Dont vous serez la reine toujours, Luz, chère petite âme compatissante. » Longtemps, ils parlèrent du passé, firent des projets pour l'avenir, assis sur la margelle du puits ancien, dans la cour silencieuse d'où se retiraient les derniers rayons du soleil. Et le docteur Talmé les trouva là, quand, une heure plus tard, un peu confus de s'être ainsi oublié, il s'arracha au vieux papier qui racontait les hauts faits des très puissants barons de Pindegui, seigneurs de Kerlozo, dont le descendant allait devenir son gendre.